savons qui nous sommes en Christ. La parole de Dieu a tant de choses à nous révéler par rapport à notre position en Christ. Voyez-vous, mes amis, et il est donc important que chacun de nous réalise et soit conscient combien Dieu est bon envers nous qui sommes en Christ. En lui, en Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. En Christ, nous sommes appelés à aller de victoire en victoire, et ce, quel que soit le type de combat dans lequel nous sommes engagés, et ce, quelle que soit la bataille dans laquelle, eh bien, nous sommes engagés. Et ce Dieu-là est présent, il aimerait une fois de plus nous parler, il aimerait une fois de plus déposer quelque chose sur nos cœurs. Alors, demandons-lui de nous aider à nous préparer à recevoir sa parole. Demandons-lui de nous donner un esprit de révélation qui nous permette d'entrer de plein pied, eh bien, dans la révélation de sa parole. Seigneur, nous voulons te remercier une fois de plus pour ta présence parmi nous, à l'occasion, Seigneur, de notre séminaire consacré à ce danger qui nous menace tous, nous qui sommes en toi, nous qui t'avons un jour rencontré, nous, ô Dieu, qui marchons non pas selon nos pensées, nos sentiments, qui nous marchons non pas au gré, ô Dieu, de nos sentiments, mais plutôt qui marchons selon ta parole. Seigneur, alors que nous sommes là pour la deuxième fois dans le cadre de ce séminaire, nous voulons une fois de plus te remercier, Seigneur, et te demander de ton cœur d'être véritablement présent au milieu de nous et de nous faire du bien par ta présence, et en particulier du bien au travers de ta parole. Merci pour toutes les vérités que nous avons reçues hier, Seigneur, concernant cette séduction qui exerce de plus en plus son emprise sur ton Église, à savoir l'esprit de Jézabel. Nous voulons une fois de plus que par ton esprit, tu puisses nous aider à découvrir, ô Seigneur, d'autres vérités en rapport avec cette séduction, en rapport avec, Seigneur, cette force de manipulation qui agit de plus en plus parmi ton peuple et qui l'égare et qui l'éloigne de toi, Seigneur, et qui l'aveugle au point où, ô Dieu, ton peuple, dans la plupart des cas, se met à claudiquer, Seigneur, avoir un pied dedans, un pied dehors. Mais ta volonté est que nous puissions t'appartenir, Seigneur, entièrement, qu'il n'y ait rien en nous qui puisse appartenir à qui que ce soit, Seigneur, même pas nous-mêmes. Tu es mort pour nous, Seigneur, et tu attends que nous puissions, ô Dieu, mener une vie d'entière abnégation, d'entière consécration à toi, car le bonheur après lequel nous aspirons, la victoire à laquelle tu nous destines, Seigneur, tout cela ne peut devenir de réalité pour chacun de nous que dans la mesure où nous apprendrons, ô Dieu, à te confier notre vie dans sa totalité, à te confier notre existence dans son entièreté. Seigneur, merci. Fais-nous du bien par ta parole. Que cette parole nous ouvre les yeux. Que cette parole nous donne, Seigneur, le discernement des esprits. Que cette parole aiguise, ô Dieu, notre sens spirituel, afin que nous puissions discerner comment cet esprit agit, Seigneur, comment il arrive à nous influencer quelquefois malgré nous. Ouvre-nous les yeux, ouvre-nous les oreilles, afin que nous puissions saisir ta parole telle qu'elle va être prononcée, proclamée, annoncée par ton serviteur. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bonsoir à tous. Alléluia, vous êtes avec moi. Eh bien, bienvenue à notre deuxième soirée consacrée donc à ce séminaire. Séminaire qui tourne autour de la problématique, donc de cet esprit que nous appelons esprit de Jézabel, esprit force spirituelle qui fait de plus en plus des dégâts, mes amis, parmi nous, et esprit qui, dans sa subtilité, arrive, hélas, à nous obnubiler au point de nous faire passer le mensonge pour la vérité, à nous obnubiler, au point de nous amener, mes amis, à poser nos regards sur un homme, à vouloir nous asseoir sur une prophétie, quelle qu'elle soit, et à nous égarer. Car comme nous allons le voir aujourd'hui, eh bien, la prophétie a toute sa place dans notre relation avec le Seigneur. Mais jamais nous devrions et nous devrions fonder notre vie sur une prophétie. La prophétie, c'est comme un panneau indicateur qu'il montre la direction dans laquelle nous devons aller rejoindre le Seigneur. Donc nous ne devons pas nous mettre à courir après l'accomplissement d'une prophétie. Ça, c'est ça l'erreur fondamentale. Nous devons toujours et en tout chercher le Seigneur. Si cette prophétie vient de lui, eh bien, en demeurant avec lui et en marchant avec lui, cette prophétie, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit, finira par devenir une réalité palpable dans notre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous n'avons pas à nous agiter. Nous n'avons pas à tourner de regard, quel qu'il soit. Nous devons apprendre à avoir confiance dans le Seigneur. Notre Dieu nous aime. Il est notre Père. Alléluia. Donc, il ne peut pas nous vouloir du mal. Il ne peut pas, s'il veut nous parler, passer forcément, toujours, absolument par d'autres personnes. Il veut que nous grandissions. Voyez-vous, quel enfant accepterait qu'à chaque fois que son maman doit lui parler, passe par des oncles, par des tontons, par des cousines, cousine Candy, pour enfin nous parler. On peut comprendre une fois parce que maman est loin, c'est la cousine qui a le GSM. Et la maman appelle la cousine, oui ou non? Et la cousine nous passe. Mais ça ne doit pas devenir une règle absolue. Voyez-vous? Et c'est là que nous devons, mes amis, nous réveiller. Les temps sont mauvais. À l'heure d'aujourd'hui, eh bien, nous ne devrions avoir confiance qu'au Seigneur et au Seigneur seul. Et comme nous allons le voir, eh bien, nous devons faire preuve de beaucoup, beaucoup d'objectivité, de beaucoup, beaucoup de responsabilité pour essayer de nous voir comme Dieu nous voit, mais aussi de voir les autres comme le Seigneur les voit. Et si nous découvrons que telle ou telle autre personne, malgré la position qu'il occupe par rapport à nous, est manipulée d'une manière ou d'une autre, et sous l'influence de Jézabel, eh bien, ayons le courage, quelquefois, de déguerpir. Si nous n'avons pas la force de l'affronter, eh bien, la sagesse veut que, en certaines circonstances, la fuite, la poudre d'escampette, eh bien, est une solution préconisée même par le Seigneur. Amen. Alléluia. Joseph l'a fait, pas Joseph Bondo, mais enfin Joseph, le fils de Jacob. Il a fait face à la femme de Potiphar. Il n'est pas resté en disant, mais elle, qu'est-ce qu'elle croit, elle? Moi, je communique avec Dieu face à face. Dieu a commencé à me parler, j'étais encore tout jeune, par des visions, etc. Le Dieu d'Israël est avec moi. Pas du tout. Qu'a-t-il fait? Il s'est dit, concernant ce péché de la chair, ni l'expérience, ni le nombre d'années de conversion, ni la position spirituelle ou religieuse ne peut vous venir en aide. La seule manière d'échapper des griffes de cette louve égyptienne, eh bien, c'est de prendre la fuite. Et c'est ce que Joseph a fait, alléluia. Donc, quelquefois, ce n'est pas un problème. Éloignez-vous du prophète, éloignez-vous des griffes de cette prophétesse qui essaie de vous maintenir par tous les moyens. Voyez-vous, esclave d'elle. Car un tel lien peut venir de partout, mais jamais de Dieu. Même Dieu lui-même n'agit jamais de cette manière. Nous prendre par la gauche, tu vas voir. Crois! Crois! Voyez-vous? Dieu n'agit pas comme ça, voyez? Il vous dit, il nous dit, voici je mets devant vous la voie de la vérité et la voie du malin qui est là. Choisis la voie de la vérité. Alors tu vivras, alléluia. Et il nous laisse le choix. Mais ce qui est extraordinaire en Christ, non seulement il nous demande, il nous montre le chemin que nous devons prendre, mais il se tient aussi à nos côtés. Mais dans la plupart des cas, nous tournons le dos au Seigneur, puisque nous avons plus confiance dans notre pasteur, nous avons plus confiance dans notre prophète, dans notre apôtre, quand nous voyons l'apôtre. Eh bien, quelquefois, notre souffle est coupé. Oh, l'apôtre a dit. Ça doit se terminer. Ça doit s'arrêter. Voyez-vous, je crois que le moment est venu où nous devons siffler la fête de la récréation prophétique. Amen. Ou du moins la récréation de la fausse prophétie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons donc continuer avec... Jézabel, et continue à dénoncer le jézabélisme Eh oui, c'est un esprit, c'est une philosophie, voyez, qui entraîne dans ce parage le jézabélite. C'est une forme d'hépatite. C'est un virus, voyez. Et pourquoi je dis ça? J'utilise cette image pour vous permettre déjà vous préparer à ce qui va venir. Car quand nous allons parler du comment reconnaître Jézabel, eh bien, vous devriez garder à l'esprit cette image de la pathologie qui s'exprime par des symptômes, ou du moins des symptômes qui révèlent la maladie. Oui ou non? Voilà, gardez bien cette image. Car le jézabélisme ou le jézabélite, appelez cela comme vous voulez, eh bien, c'est une pathologie spirituelle et il y a des symptômes, des signes qui montrent que Jézabel est là. C'est Jézabel qui est à l'œuvre, même si c'est le nom de Jésus qui sort tout le temps. Voyez-vous, nous ne devrions pas nous fier à ce qui sort dans la bouche, mais c'est plutôt au fruit de l'arbre que nous reconnaîtrons la nature de l'arbre. Alléluia. Car le nom de Jésus est devenu aujourd'hui un nom que tout le monde essaye d'utiliser pour se crédibiliser, pour que toutes les portes soient ouvertes. Je suis serviteur du Seigneur, je suis prophète de Dieu, etc. Vous voyez? Donc, ce n'est pas ça qui est important. Et je crois que le but, c'est que chacun de vous, frères et sœurs, comprenne. Quelquefois, je suis direct, donc j'utilise un langage très cru, je stigmatise certains comportements, eh bien, tout simplement parce que ce que j'entends, ce que je vois concernant eh bien, l'ambiance qui règne autour de nous, concernant la température ambiante et spirituelle, m'amène à avoir un langage dur. Car si nous ne prêchons pas de cette manière, si nous ne parlons pas de cette manière, eh bien, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Alléluia. Nous sommes dans 1 Rois, chapitre 17. Nous allons lire les deux premiers versets et puis nous irons au chapitre 18. 1 Rois 17, 1 à 2, nous lisons. Élie le Tishbite de Tishbé, l'un des habitants de Galade, dit à Acab qui était le roi d'Israël à cette époque-là, le Seigneur ou l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. La parole du Seigneur lui fut adressée en ces mots. Amen. Le Seigneur devant qui je me tiens. Et puis ensuite, la parole du Seigneur lui fut adressée. Chapitre 18, là nous allons lire quelques versets, puisque nous allons nous attarder davantage sur l'onction Élia, ou donc l'onction d'Élie ou l'onction prophétique. Et en particulier voir, comme nous l'avons introduit hier, comment dresser l'autel afin que le feu d'en haut descende. Donc chapitre 18, nous lisons le premier verset. Bien de jours s'écoulèrent et la parole du Seigneur fut adressée à Élie la troisième année en ces termes. Va te présenter devant Acab et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. Sautons, nous allons au verset 19. Envoie maintenant rassembler tout Israël. C'est donc le prophète qui s'adresse à Acab et qui lui demande de faire ce que nous allons lire. Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Akéra qui mange à la table de Jézabel. Excusez-moi, je vais enlever mon badge. Donc, 400 prophètes d'Akéra qui mangent à la table de Jézabel. J'aimerais vous rappeler ce que nous avons lu hier dans Apocalypse 2, verset 20, où le Seigneur, eh bien, dénonce une des pratiques de Jézabel qui consistait évidemment à séduire et à amener les gens à manger des viandes sacrifiées aux idoles. amener les gens à se retrouver à la table de Jézabel, avant qu'il frappe dans l'église de Thyatire, eh bien, nous retrouvons déjà le même esprit là. Les prophètes qui mangeaient à sa table. Et manger, c'était plus que partager un repas. C'était vraiment être en communion avec l'esprit qui manipulait Jézabel. Verset 20, Akab envoya des messages vers tous les Israélites et rassemblant les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si le Seigneur est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Dieu est le partage. Ou c'est lui, ou c'est l'autre. Mais parle-nous à la fois. Ou tu es froid, ou tu es chaud, mais pas tiède. Et il est dit dans sa parole, puisque tu es tiède, qu'est-ce que je ferai de toi? Je te vomirai. Attention. Donc, le peuple ne lui répondit rien. Verset 22, Élie dit au peuple, je suis resté moi seul prophète du Seigneur, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le découpent, et qu'ils le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, d'accord, nous sommes d'accord. Voyez-vous, nous sommes au Mont Carmel. Hein? Et là, d'un côté, vous avez toute une pléthore des faux prophètes, voyez-vous, et de l'autre côté, le prophète par excellence, il était seul, n'est-ce pas? Voyez-vous, une fois de plus, ce n'est pas le nombre qui fait la victoire. Ce n'est pas la quantité qui amène la victoire. La victoire se trouve dans le Seigneur. La victoire se trouve auprès du Seigneur. Alors le but, ce n'est pas de vouloir plaire à la multitude, au risque de se compromettre vis-à-vis du Seigneur. Le but, c'est d'être avec le Seigneur. Car lorsque je suis avec lui, quelle que soit la foule en face de moi, je finirai par triompher. Alléluia. Car celui qui est avec nous, celui qui est en nous, celui qui est pour nous, est plus fort, plus puissant que l'esprit de Jézabel, que toutes ces forces de séduction qui essayent de détruire la vie de Jean. Et verset 24, non, Dieu, tout le peuple répondit, d'accord, nous sautons. Verset 26, les prophètes de Baal prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. C'était une danse sacrée, hein, voyez. Donc ils pensaient qu'en sautant, en dansant, en bougeant, eh bien, Dieu agirait. On retrouve le même modèle aujourd'hui. Les gens pensent que quand les gens sont secoués dans la chair, quand ils agitent, ils bavent, eh bien, Dieu est là. Voyez. À midi, Élie se moqua d'eux. Quelle ironie, hein. Écoutez ce qu'il leur dit. Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Priez fort. Et quelquefois, nous essayons d'agir comme ces gens-là. Nous pensons qu'à force de crier, le Seigneur va nous entendre. Comme si, toute la journée, le Seigneur part en voyage. Alors, nous devons ramener au milieu de nous, Seigneur, Jésus, Jésus. Oui, quelquefois, c'est l'émotion. Mais à force de le faire, nous pensons que c'est comme ça avec Dieu. Vous voyez, ils ont crié. Paul, plutôt, Élie, ironise. Élie le tourne en dérision. Il dit, mais criez encore fort, mes amis. Peut-être que votre Baal dort. Notre Dieu ne dort ni ne... Il veille toujours. Et quelquefois, même sans que nous ayons dit quoi que ce soit, il est à l'œuvre. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours lui faire confiance. Ce n'est pas parce que nous ne ressentons rien. Ce n'est pas parce que la semaine nous n'avons pas jeûné que ce Dieu-là serait parti, je ne sais sur quelle planète ou dans je ne sais quelle galaxie. Non! Il est venu habiter en nous. Il est avec nous. Alléluia. Nous ne marchons pas selon ce que nous ressentons. Quelquefois, oui, Dieu peut utiliser, toucher un peu les fibres de notre corps. Et tout nous démange, hein, dans le bon sens du terme. Vous voyez, c'est formidable. Ah, c'est le Seigneur. Formidable. Alléluia. Voyez, nous nous jettons par terre, nous nous retournons, nous sommes là, alléluia. Nous crions, nous parlons, et puis nous n'avons plus de mots, et puis le Saint-Esprit nous donne son langage. Gloire au Seigneur, alléluia. Mais jamais lier Dieu à une certaine manière de faire. Il est. Voilà comment il se révèle dans la Bible. Dieu, c'est tout. Dès que vous ajustez un prédicat, vous le limitez. Il est. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, eh bien, verset 28, vous savez, ils sont dépassés. Ils ne se disent même pas que ce Élie-là est en train de se moquer de nous. Eh bien, il y a des situations où on est prêt à faire tout ce qu'on nous demande. On ne se pose même plus de questions. Voilà, ils étaient tellement sûrs. Et ils répondent, ils crièrent à pleine voix. Et ils se firent, par après, selon leur coutume, des incisions avec des épées, et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Mais Baal est une idole muette, morte mille fois, incapable de bouger, alléluia. Donc c'est une fou. Vous voyez pourquoi Dieu condamne l'idolâtrie. Vous vous mettez devant un morceau de bois taillé avec une forme de mannequin. Vous lui donnez un nom. Et vous pensez qu'il vous écoute. Elle vous écoute. Vous ne pouvez pas limiter Dieu. Vous voyez, ce n'est pas parce que vous l'avez reçu dans votre religion que cela est la vérité. Réveillez-vous. Alléluia. En ce jour-là, ce morceau de bois ne sera pas là. Pour témoigner en votre faveur, en disant, oui, je connais sa ferveur. Il me récitait tout le temps. Il me saluait tout le temps, eh oui.
Il y en a qui se reconnaissent, mais enfin, c'est dans le passé. Vous voyez?
Donc, ils ont crié, rien du tout. Midi arrive, on présente l'offrande, rien du tout. Alors Élie, l'homme de Dieu, alléluia. Élie, l'homme de Dieu, il dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel du Seigneur qui avait été renversé. Ah! Voyez-vous, mes amis, dans leur impiété, dans leur apostasie, dans leur rejet de Dieu, ils avaient poussé trop loin leur folie jusqu'à renverser l'autel du Seigneur pour adorer Baal. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a commencé par réparer, restaurer, rétablir l'autel. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus des fils d'Israël, etc., à qui la parole du Seigneur avait été adressée en ces termes, « Israël sera ton nom ». Et le verset 32, « Il bâtit avec ces pierres un autel au nom du Seigneur », c'est-à-dire selon les instructions du Seigneur, selon la volonté du Seigneur, alléluia. Quand on dit au nom du Seigneur, ce n'est pas que, il dit, j'ai bâti au nom de l'Éternel. Vous voyez? Parce que là aussi, il y a un problème. On pense que le nom, quand on dit au nom de Jésus, c'est un miracle. Vous voyez? Et c'est ainsi que même certaines prophéties qui ne sont que des paroles divinatoires, provenant tout droit du cœur de Jézabel, pour leur donner du crédit, on ajoute cette expression, ainsi parle le Seigneur. Vous avez déjà entendu ça, non? Au nom de Jésus, je t'ai dit. Au nom de Jésus, je t'ai fait. Et verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança simplement. Alléluia. Il n'a pas besoin de s'agiter. Il est sûr, il sait qui est avec lui et avec qui il est. Alléluia. Il sait, mes amis. Il ne fait ombre d'aucun doute en lui que ces idoles-là, ce n'est que de la folie. Ce ne sont que des puissances démoniaques qui ne peuvent absolument rien faire lorsque le Dieu Tout-Puissant est là. Il s'approche. Écoutez la prière qu'il adresse Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. D'abord et avant tout, non pas afin que ce peuple reconnaisse que je suis l'apôtre, que c'est moi l'évêque maréchal, et que c'est toi qui ramènes l'heure. Alors le feu du Seigneur tomba, il consuma l'holocauste, le bois, etc. Et le verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. Alléluia. Mes amis, il y a de quoi applaudir. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui a démontré à son peuple qu'il était véritablement Dieu. Voyez-vous? Élie n'a pas utilisé, n'a pas recouru à toutes sortes de discours polémiques, apologétiques, à toutes sortes d'arguments pour théologiques ou philologiques pour essayer de convaincre le peuple. Voyez-vous, il y a eu ceci, il y a eu cela, par transitivité, il y a eu cela, et par conséquent, logiquement parlant, et nous arrivons à ceci. Donc, s'il vous plaît, le Seigneur est Dieu. Il fallait que lui-même le démontre, alléluia, à son peuple. Mais pour cela, il a fallu que les serviteurs de Dieu créent des conditions qui amènent ce Dieu-là à répondre à la prière de son serviteur par le feu. Alléluia. Et je crois qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne devons pas simplement mettre le doigt là où ça ne va pas, dénoncer, stigmatiser, eh bien, cette influence jézabélienne dans le chef de certains ou de certains hommes de Dieu, de certaines femmes de Dieu, parmi le peuple de Dieu, mais il est grand temps que nous comprenions qu'alors que nous dénonçons cela, alors que nous avertissons le peuple de Dieu, que nous puissions accompagner tout cela par une démonstration de puissance et d'esprit. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Voyez-vous, avant qu'il envoie la pluie, car c'était ça le problème, oui ou non? Oui, 3 mois de sécheresse, 3 mois de malédiction, 3 mois d'Ichabod, hein, pour revenir à notre thème, 3 mois d'épreuve, 3 mois d'humiliation, mes amis, 3 mois où le peuple nage dans toutes sortes d'abominations, 3 ans plus tôt, et ce peuple aspirait à quelque chose. Avant que Dieu envoie la réponse par excellence, la réponse idoine à leur problème, il a fallu d'abord nettoyer le sol. Il a fallu nettoyer le peuple. Alléluia. Il a fallu que le peuple sache que ce Dieu est lui seul qui est véritablement Dieu. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu cette confusion des faux prophètes au mont Carmel et que Élie serait monté avec Acab sur le mont Carmel pour intercéder afin que Dieu envoie la pluie, mais certains auraient pu dire oui, mais c'est parce que nous avions intercédé avant-hier. Oui ou non? Chacun aurait trouvé une raison de défendre le fait que c'est Baal qui a répondu à la prière. Mais il a fallu d'abord confondre tous ces faux prophètes, il a fallu nettoyer le peuple, plutôt les terrains, amener le peuple à revenir à ces dieux qu'il avait rejetés, avant que la pluie vienne. Alléluia. Et je veux vous dire qu'il n'en est pas autrement aujourd'hui. Nous soupirons après un réveil, oui ou non? Nous soupirons après la pluie de l'arrière-saison. Nous soupirons après, mes amis, toutes sortes de bénédictions parmi nous. Nous voulons voir des vies changées, transformées. Nous voulons voir des démoniaques, des gens démonisés, être complètement délivrés. Nous voulons voir des malades être guéris, oui ou non? Nous voulons voir la parole de Dieu être prêchée avec autorité. Nous voulons voir des gens quitter leur secte, quitter leur fausse religion, quitter, mes amis, leur état d'esclavage pour entrer dans une relation vivante avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Tout cela, c'est la pluie qui vient du ciel. Mais il y a une étape qui doit venir avant toute chose. C'est que le feu doit descendre parmi nous. Et là, il faut que l'autel soit redressé. Mais nous sommes encore au niveau avec le peuple. Nous ne sommes pas encore montés au Carmel pour intercéder jusqu'à ce que la pluie vienne. Mais nous sommes là pour voir comment nous pouvons nous préparer, chacun pour sa part, à être un outil qui va contribuer à la création, mes amis, des circonstances qui vont permettre enfin au Seigneur de gloire de se lever de son trône, d'ouvrir le ciel, d'envoyer le feu et de venir jusqu'à nous. Il est encore important qu'aujourd'hui, je revienne un tout petit peu sur quelques aspects pratiques de l'esprit de Jézabel. Je voudrais être aujourd'hui très prosaïque, très terre à terre, voilà. Donc, à partir des exemples concrets, pour permettre à certains d'entre nous, dont je suis convaincu qu'il y en a ce soir, de réaliser que la prophétie reçue, que la vision reçue, que l'enseignement auquel on avait adhéré ont eu un impact terrible sur la vie, sur le foyer, la famille, sur le travail et quelquefois sur le ministère. Voyez-vous? Donc je voudrais prendre quelques exemples concrets pour essayer de voir comment cet esprit de Jézabel, mes amis, non seulement nous avons vu que déjà dans l'Ancien Testament, il était à l'œuvre. Nous avons vu sa cruauté, oui ou non? Nous avons vu comment cet esprit s'est manifesté par la séduction, par l'égarement du peuple de Dieu, par toutes sortes de choses terribles. Nous avons vu dans le Nouveau Testament comment cet esprit avait manipulé Hérodiade, voyez-vous, jusqu'à demander auprès de son mari, qui se trouvait être son oncle, quel inceste, hein? Eh bien, comment cet esprit a fini par exécuter ou faire exécuter Jean-Baptiste, sur qui reposait l'onction de qui? L'onction d'Élie. Car à propos de Jean-Baptiste, le Seigneur avait dit que c'était lui l'Élie qui devait venir. Non pas que Jean-Baptiste était la réincarnation, que tous ceux qui ont cédé aux sirènes de l'occultisme ou du bouddhisme m'entendent bien. Le fait que le Seigneur ait dit que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir, cela ne veut pas dire, ne veut pas sous-entendre que Jean-Baptiste était la réincarnation d'Élie, pas du tout. Le Seigneur voulait simplement dire que l'onction qui a habité, qui s'est reposée sur Élie, c'est la même onction qui s'est reposée sur Jean-Baptiste et qui a fait de lui, mes amis, le précurseur du Messie. Alléluia. Autant Élie a été aussi le prémisse, mes amis, par rapport à l'enlèvement, car un jour, tous ceux qui sont en Christ seront en... Il est en cela le prémisse, non? Eh bien, autant Jean-Baptiste a été le précurseur du Messie, et il avait besoin d'onction, c'était l'onction d'Élie. Et là où cette onction se manifeste, croyez-moi, mes amis, Jézabel n'est pas loin. Et c'est comme ça que Jean-Baptiste sera une victime collatérale de cet esprit de Jézabel. Voyez-vous? Qu'en est-il aujourd'hui? Voilà donc la question. Concrètement, qu'en est-il de l'Église de Jésus-Christ du XXIe siècle? Nous sommes au XXIe siècle, ou non? Donc, qu'en est-il de notre Église, la borne? Voyez, quand je prêche, il faut savoir que même si je ne cite pas la borne, je prêche d'abord pour ma chapelle. Et je prêche aussi pour moi-même. Voyez? Avant de prêcher pour les autres. Voyez? Donc quand je dénonce des choses, il ne faut pas croire que je souffrirai quelque part de presbytie spirituelle. Vous savez, les gens qui sont atteints de la presbytie voient mieux au loin, oui ou non? C'est ça, hein? Ok. Je ne suis pas atteint de cette anomalie visuelle. Vous voyez? Eh bien, non. quand je parle, je dénonce le péché, ben, je suis concerné, vous êtes concerné, ils sont, nous sommes. Qu'en est-il de l'Église aujourd'hui, la borne? Qu'en est-il de nos assemblées? Qu'elles soient des assemblées de Dieu, qu'elles appartiennent à tout autre mouvement de réveil, mouvement presbytérien, tout ce que vous voulez. Qu'en est-il de tout cela? Qu'en est-il des pasteurs par rapport à Jézabel? Qu'en est-il de ces serviteurs, de ces servantes de Dieu, de ces prophètes et de ces prophétesses? Qu'en est-il de ces apôtres, de ces docteurs? Voyez-vous, des gens, pour peu que quelqu'un sache lire, écrire, méditer, 3 mois après, il devient docteur de la parole. Voyez, qu'en est-il de tout cela? Eh bien, pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que je voudrais partir des exemples concrets pour amener chacun de nous à réaliser que le seul antidote, le seul remède contre le jézabélisme, c'est justement l'onction du Saint-Esprit qui se manifeste sous 2 aspects, l'onction Eliaou et l'onction Yehou. Je reviendrai là-dessus. Alors, qu'en est-il de nous, mes amis? Comment reconnaître que telle assemblée est sous la manipulation de Jézabel? C'est important, non? Ah oui. Moi, je voudrais savoir, si je suis quelque part dans une ville et que je voudrais aller communier quelque part, même si on me dit que c'est l'Église qui appartient aux assemblées de Dieu, le fait d'appartenir aux assemblées de Dieu ne fait pas d'une église, ne fait pas d'une assemblée, une assemblée qui reste dans et sous l'autorité de Dieu. Il y a certaines assemblées de Dieu dans l'Église de Jésus, comment? Dans certains pays qui cautionnent la polygamie, hein? Ah oui. Surtout en Afrique de l'Ouest. J'ai eu à discuter avec certains membres des assemblées de Dieu du Burkina Faso, du Togo, etc. Et qui soutenaient que, oui, mais c'est notre culture, la polygamie. Enfin, je ne sais pas s'ils doivent marcher selon leur culture. Donc, qu'en est-il d'un serviteur de Dieu? Comment savoir qu'un homme de Dieu, l'homme qui me parle, mon responsable, l'apôtre de notre mouvement, le prophète, la prophétesse, le docteur, comment savoir s'il est manipulé, s'il est sous l'influence de Jézabel, n'est-ce pas? Eh bien, comme je l'ai souligné au début, c'est à partir de certains signes, voyez-vous, que nous pouvons dire que voilà, là, eh bien, Jézabel est à l'œuvre. C'est comme pour une pathologie, une maladie quelle qu'elle soit. Il y a des symptômes, voyez-vous, qui révèlent la maladie, oui ou non? Quand il y a ceci, quand il y a cela, le médecin vous examine, le médecin vous écoute, le médecin, à partir de ce qu'il voit, des examens, de tous ces symptômes, il peut donc arriver, enfin, à dire de quoi vous souffrez, oui ou non. Donc, les symptômes révèle la maladie. N'est-ce pas? Donc, il y a aussi des signes. Il y a des symptômes qui vont nous mettre la puce à l'oreille, qui vont nous permettre de savoir si telle assemblée, telle communauté, si tel pasteur, si tel prophète, ou du moins telle personne qui se croit ou se dit prophète, car dans la plupart des cas, je me suis toujours posé la question, comment ils sont devenus prophètes? Et soit on vous dira, oh, Dieu m'a appelé. Oui, mais ça reste subjectif. Si Dieu vous a appelé comme prophète, mais l'église dans laquelle il vous a appelé est quand même une église. Si c'est une église structurée, il y a eu des gens qui ont vu, oui ou non. On ne se réveille pas le matin, oh, Dieu m'a parlé, il a murmuré à mon oreille que je suis prophète de Kingabwa. Ça ne se passe pas comme ça. Le drame, c'est ça. Comme l'exemple que je vous donnais hier. Ce prophète, nous avons suivi, mon épouse et moi, comme par hasard, hein, c'était à la télé en zappant, eh bien, il disait que Dieu lui avait parlé à l'oreille. Et Dieu lui avait dit que l'homme ne doit pas manger la viande. Je vous ai dit ça hier, hein. Il remettait en question l'écriture sainte.
Et il y a des gens qui suivent cet homme, puisqu'on a montré des images en Europe, un peu partout, où les gens courent après lui. Des gens pareils, je vais vous dire une chose, sont manipulés. Ça, c'est l'influence de Jézabel. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, et c'est Jésus lui-même qui dit, ce qui souille l'homme, ce qui rend impur l'homme, ce n'est pas ce qui rentre par la bouche, mais ce qui sort du cœur. Maintenant, entre ce que l'un dit que Dieu lui aurait parlé, et ce que dit Jésus, ben, je dois choisir. Si je choisis pour le prophète, je suis responsable de ma perdition. Parce que le Seigneur me renverra sa parole. Il me dira, mais qu'est-ce que je t'ai dit ou qu'est-ce que je dis dans ma parole? Aucun de mes apôtres n'a interdit la consommation. D'ailleurs, à l'église de Corinthe, il y avait un problème. Comme Corinthe, comme tant d'autres métropoles de l'époque, eh bien, il y avait des lieux consacrés à des divinités païennes. Et dans ces lieux-là, on pouvait trouver, par exemple, on faisait des sacrifices, des animaux. C'était de la viande sacrifiée aux idoles. Et cette viande se retrouvait sur le marché. Alors les Corinthiens, les chrétiens, ne savaient plus quoi faire. En tant que chrétiens, pouvaient-ils manger cette viande ou ne pas la manger? Paul n'a pas dit, vous parlez de viande? Enfin, Dieu a interdit de manger la viande. Il n'a pas dit ça. Et puis, les Juifs mangeaient. Quand on parle de Pâques, vous verrez que le verbe qui accompagne le mot Pâques dans le Nouveau Testament, si vous allez dans Jean ou Luc, c'est toujours « manger la Pâques ». Et à Pâques, on mangeait quoi? Il y avait le pain sans levain, évidemment. Hein? Il y avait la boisson, il y avait quoi encore? L'agneau. Vous pensez que l'agneau, c'est du pain? Mais c'est la Bible, mes amis. Comment les gens peuvent même croire et prendre du temps pour écouter un aventurier? Voyez? Pour entendre, comment, un animateur de Jézabel. Voyez? Comment? On ne peut même pas aussitôt aller, hop! Seigneur, je pars. Même s'il faut se lever, vous levez, vous partez. Parce qu'on ne joue pas, et ça nous le verrons. Voyez? Nous allons voir. Donc, c'est à partir des signes qui sont des symptômes que nous allons savoir si tel est manipulé par l'esprit de Jézabel ou pas. Alléluia. Et lorsque nous discernons cela, nous devrions faire preuve de courage, d'audace, d'objectivité et de responsabilité pour que nous ne puissions pas nous laisser obnubiler quelquefois par les sentiments ou par le charisme de l'homme en question. L'homme parle tellement bien. Il y a des gens qui ont un charisme démoniaque. Voyez? Ils savent subjuguer le foule à partir de leur sermon. C'est des bons parleurs. Voyez? C'est comme ça que les gens finissent même... On retrouve ça. Les escrocs, c'est pareil. Un escroc vient, la main dans la poche, avec sa cravate. Et quelquefois, il y en a qui préparent leur coup avant. Ils viennent, ils vous laissent même l'argent. Ils partent. Ils disent, vous avez vu, ok. Et puis ils reviennent, ils disent, non, vous avez encore gagné. 200, 300 dollars. Et quand ils reviennent, ils disent, maintenant, vous voulez avoir combien? Même 10 000. Ah, pour 10 000, vous devez d'abord donner 5 000. Vous allez voir. Et vous vous donnez, pourquoi? Parce qu'avant, ils vous ont donné 100 gratuitement. Et puis 200. Mais c'est des fins calculateurs. Et après, ils vous demandent 5 000. Vous apportez 5 000. Le lendemain, vous venez, il n'y a plus de bureau. Ils ont disparu dans la nature. C'est des escrocs, c'est des gens très intelligents. Ils ont toujours un discours rodé. C'est des véritables funambulistes. Vous connaissez les funambulistes, là, les gens qui marchent sur la corde. Donc, vous les avez déjà vus, non? Eh bien, ce sont des gens, c'est ni le mensonge, ni la vérité.
comme ça qu'ils arrivent à impressionner les gens. Alors les esprits lourds, ceux qui ont des problèmes de... qui sont là à en comprendre, puisque ce n'est ni le mensonge, le temps qu'ils réalisent, c'est un peu la vérité, ils restent là. Mais ce n'est pas la vérité. Ah, c'est comme ça que les gens arrivent à embarquer les gens, à remorquer les gens dans leur pousse-pousse spirituel, voyez-vous, et, ou dans leur tricycle, là, ils vous emportent vers des destinations terribles. Donc, lorsque nous voyons ça, eh bien, ne nous laissons pas distraire. Quand quelqu'un chez vous est malade, vous voyez des symptômes, vous commencez à minimiser parce que quelque part vous avez peur. Dites, ah, les accidents. La tête, ah non, au nom de Jésus. Non, c'est peut-être la grippe. Vous voyez, on commence à minimiser. Mais là, vous rendez un mauvais service à la personne. Autant lui dire, ah mon frère, ma soeur, ah, tout allait bien. Parce que nous, tout est tabou. Quelqu'un malade, il dépérit, ah, c'est peut-être le démon. Ouais. On va lier, frère. Oui, mais dites-lui simplement, allons voir le médecin. C'est comme ça que les gens meurent. Après, on l'a empoisonné. C'est ça le problème. Quelqu'un est emporté par l'hypertension et tout ça, a dit, ah, dans cette famille, il y a la malédiction. Non. Il y a des populations qui ont une certaine prédisposition à l'hypertension, oui ou non. À certaines maladies, mes amis, c'est comme ça. C'est ça, c'est la conséquence du péché qui a déséquilibré nos cellules, notre patrimoine génétique, qui fait que certains dans le même environnement résistent, d'autres dans le même environnement arrivent à développer un cancer. C'est comme ça, mes amis. C'est le péché. Bref, comment? Eh bien, commençons avec les pasteurs, nous. Parce que c'est nous qui prenons la parole. C'est nous qui vous enseignons, oui ou non. Quelque part, nous avons une certaine autorité. Voyez-vous, donc commençons avec nous. Tous ceux qui ont une certaine responsabilité dans le corps du Christ, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient prophètes ou prophétesses, qu'ils soient je ne sais qui, commençons avec nous. Comment savoir que tel responsable, qui fait des campagnes d'évangélisation, qui fait des séminaires ça et là, qui sévit sur qui passe sur toutes les chaînes de télévision, etc. Comment savoir qu'il est manipulé par Jézabel? Cela est important. Oui ou non? Et je voudrais que vous m'étendiez très bien votre oreille. J'ai reçu il y a quelques mois d'ici, ou quelques semaines, une dame qui nous suit toujours à la télé, qui m'a dit, pasteur, on ne sait plus quoi faire. Quand on vous entend, vous dites, ça, voilà la vérité. Quand on les entend, finalement... Elle a été sincère. Mais finalement, qui a la vérité? Vous dites ceci, mais il dit ça, mais il y en a qui vomissent les crapauds, les rats, je ne sais pas comment. Bref, qui a? Je lui dis, ma soeur, ce n'est ni moi, ni eux. La vérité est une personne. Nous reconnaissons que telle personne est dans la vérité lorsque il prêche la vérité. Et lorsque sa parole... Eh bien, est en conformité, la parole de la vérité, eh bien, elle est en conformité avec sa vie. Enfin, bref, qu'est-ce qu'il faut faire? Pasteur, docteur, prophète, comment le savoir? Eh bien, lorsqu'un pasteur, un homme de Dieu, une femme de Dieu, quel qu'il soit, est sous l'influence de Jézabel, on observe ceci. Il y a dans les chefs de ces gens-là, un esprit de lucre, voyez-vous, et une recherche d'une sorte de gloriole personnelle. On cherche à se mettre, si vous voulez, toujours en évidence. L'esprit de lucre, c'est quoi? C'est cet esprit qui pousse les gens à rechercher le profit avec avidité, avec convoitise. On organise des séminaires, non pas pour nourrir les gens, spirituellement parlant, mais on organise les séminaires, on organise des activités spirituelles dans le but d'avoir de l'argent. Ça ne peut pas venir de Dieu. Voyez-vous? C'est pourquoi Que nous soyons, nous avons toujours un budget pour notre séminaire. Mais vous verrez que nous payons. L'autre fois, je vous ai dit que les bus sont augmentés. Transco, je ne sais pas si les dirigeants auraient reçu une révélation, mais enfin, ils ont augmenté. C'est un peu plus cher, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que les gens écoutent la parole de Dieu. Nous ne cherchons, quand nous prenons les offrandes, ce n'est pas pour faire des bénéfices. D'ailleurs, tout va dans le budget pour permettre à chacun de vous déplacer et de venir écouter la parole de Dieu. Mais dès lors qu'on organise des campagnes, et quelquefois, il n'y a rien de spécial qui est dit. Voyez ? Quand on commence, c'est maman pasteur, dans toute sa splendeur, dans toute son extravagance, des bijoux en or qui commencent là, tous les doigts. Non, mais attention, il faut se dire la vérité. Ouais. Ça commence là, ça arrive là, et là. Au niveau de la poitrine, n'en parlons pas. Il y a au moins 5 qui se superposent. Et c'est toujours des histoires qui peuvent vous éblouir même à 500 mètres. Vous voyez? C'est maman pas celle qui s'élève. Et puis on doit voir qu'elle a le sac Louis Vuitton. Maintenant, si vous en achetez un à ma femme, je ne refuserai pas. Vous voyez, le problème, ce n'est pas tant le sac. C'est ce désir de montrer à tout le monde. Et c'est là qu'on voit l'aveuglement. Parce que les gens s'asseyent sur des morceaux de briques. Oui ou non? Parce que les gens sont encore en dessous des tôles, voyez-vous, bricolés. Et quelquefois, quand la pluie vient, on prévoit toujours des seaux. Voilà. Pour mettre là où ça va couler. Voyez? Parce que il y a toutes sortes de saletés. Il y a des besoins au niveau de l'église. Non. Ça, non. Ça, non. L'argent, c'est pour le pasteur. Voyez-vous? Et maman, pasteur. Voyez? Nos femmes doivent nous aider. Vous, les épouses des pasteurs, vous pouvez contribuer à l'égarement de votre mari. Si vous voyez que nous commençons à nous comporter, ayez le courage de nous dire la vérité, non chérie. Là, je vois que tu commences à papillonner. Mais quand la femme vient, c'est notre tour. Mais ton tour, avant c'était le tour de qui? Vous voyez, mes amis, on peut être manipulé sans le savoir. Je pense, puisque je parle des femmes de pasteurs, de ce témoignage, c'est un pasteur qui l'avait partagé sur Bruxelles. Ça se passe en Argentine. Un pasteur avec sa femme très engagée partage le ministère. Dieu bénit l'œuvre de Dieu. À un moment, la femme a commencé à faire preuve, comment? À vouloir tout contrôler. Oui. Mes amis, les hommes, nous devons rester des hommes. Oui. Il ne faut pas devenir comme une marionnette. Bien. Ah oui. À un moment, Jézabel a aveuglé cette femme-là. Cette femme, voyant l'argent rentrer, alors qu'elle faisait le travail avec son mari, a voulu prendre la place de son mari. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a empoisonné. Ah oui, Jézabel. Mes amis, elle aveugle, parce que la femme voulait aussi, oui, maman pasteur, elle aurait aimé qu'on l'appelle simplement pas. Il y en a qui courent, absolument. Tete Naza, pasteur. Ok. Je suis ceci. Eh bien, elle a empoisonné son mari. Mais comme Dieu est bon, le mari n'est pas mort. résultat, oh, Seigneur, elle est venue confesser à son mari, dit non, j'ai voulu te tuer, Jézabel. Vous voyez, mes amis, ça ne pouvait pas venir d'elle-même. Elle a été aveuglée. Comment peux-tu vouloir ensorceler ton propre mari? Voyez, Jézabel, quand elle frappe, ni Marie, pour elle, ne compte pas. Enfin, pour l'esprit de Jézabel. Marie, enfant. Il y en a qui sacrifient leurs enfants. Voyez, vous savez que même le ministère auquel Dieu nous a appelés, comme quelqu'un, pasteur, l'avait dit, le Seigneur ne nous demande pas de mettre sur l'autel du sacrifice nos enfants. Le pasteur, vous qui avez des enfants, faites tout pour prendre soin de vos enfants. Ne soyez pas irresponsables des voyages tout le temps. 3 mois, 6 mois. Hein? Vous ne passez pas du temps avec vos enfants. C'est anormal. Hein? Vous êtes le premier à jeûner. Oh, 10 jours, je viens d'une retraite. C'est bien. Mais passer du temps avec ses enfants est aussi spirituel. Voyez? Nous devons prendre soin et ne pas laisser le travail nous absorber au risque d'oublier nos propres enfants. Alléluia. Donc, l'esprit de Luc, voyez-vous, dans le chef de certains serviteurs de Dieu, de certaines servantes de Dieu, voyez, il y en a dès qu'on a récolté les offrandes. Lise ça, car. Elle est assise, hein? Yaka. Comme on intimait des ordres, hein? Ils ont terminé de compter l'argent. Hein? Parce que papa dit qu'on doit se dépêcher. Papa dont elle parle, c'est son mari. Pasteur. Oui. Dès qu'on a fini, on emballe tout. Ok, au revoir. Paf. Non. Le ministère n'est pas une occasion de s'enrichir. Voyez-vous, ça nous devons nous dire la vérité. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont tout perdu par crédulité. Vous avez été manipulés par tous ces pasteurs rongés par l'esprit de lucre. Voyez, donnez. On n'a jamais construit le temple. Hein? Ah oui, mais on ne comprend plus à la banque. Comment? Pendant tout ce temps, on comprenait. Seulement au moment où on commence à poser des questions, mais pasteur, ça fait quand même 10 ans. Elle dit, oui, mais la banque là n'est pas très claire, ce sont les Nigériens, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Nigériens ne sont pas sérieux, ils sont comme nous. Donc voyez-vous, il y a ça. Voyez, la quête de gloire. Ça c'est, on veut absolument par tous les moyens, voyez, être glorifié. Il faut que tout le monde, certains sont même prêts à se compromettre. On fait venir des pasteurs, des bishops de l'étranger, qu'on utilise comme de roues de secours. Vous savez ça, les gens, ce sont des gens très très calculateurs. Hein? Et quelquefois ces prédicateurs, eux aussi c'est une occasion, allez au Congo, to go to Congo. Ils répondent. Quand ils arrivent, alors ils utilisent ces gens-là. Pour attirer le foule. Mon frère, ma sœur, si Dieu t'a appelé au ministère, tu ne peux pas exercer le ministère par procuration. Tu ne peux pas t'asseoir et laisser les autres travailler pour toi. Ou alors tu prends congé par rapport au ministère. Ou alors, sauf si pour cas de maladie. Quand le pasteur Vernon était malade, c'était normal qu'il y ait des gens qui dirigent l'église, oui ou non. Mais vous ne pouvez pas à chaque fois. Tout le temps que des pasteurs qui viennent de l'étranger, du Katanga, du Maniema, de Bandundu, tout le temps. Alors, vous n'avez plus rien à donner. La sagesse, c'est qu'asseyez-vous. Le problème ici, et ça je voudrais que nous le comprenions, ce n'est pas parce qu'on a été à l'école biblique une fois, qu'on a reçu son diplôme, c'est fini. Et ça, nous l'observons, personnellement je l'observe. Non seulement dans le domaine de la théologie, nous les pasteurs, je vais vous dire une chose, c'est un appel très contraignant. Il faut suivre les besoins des gens. Les gens se posent des questions, non? Hein? Eh oui, les gens se posent, on a de plus en plus d'universitaires à l'église, Et tout ça, il faut toujours être en mesure de pouvoir nourrir ceux qui ont un niveau bas, nourrir ceux qui ont un niveau. Et ça, ça demande, mes amis, c'est aussi un exercice d'équilibriste. Oui, d'équilibriste. C'est aussi du funambulisme. Donc, mais, dès qu'on a terminé les études, même la médecine, c'est fini. Ah, vous savez, j'ai fait la médecine, j'ai terminé en quelle année? En 82, fini. Mais c'est bien. Mais la médecine, vous pensez qu'elle s'est arrêtée en 82? Mais c'est une discipline scientifique qui évolue, mes amis. Hein? Il y a beaucoup de choses depuis 82 qui ont été découvertes. Hein? Dans tel ou tel autre domaine de la médecine. Mais vous dites non, non, non. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a vu des gens, des médecins donner aux malades des médicaments qui ne sont plus utilisés depuis belle lurette en Europe. Je l'ai dit parce que j'ai connu un cas, mon épouse est là. D'ailleurs, le frère, le papa là, est décédé plus tard, il a beaucoup souffert. En parlant, il dit non. Un collègue professeur, si vous êtes là, c'est peut-être. Je l'ai dit comme ça, c'est mon devoir aussi. Lui avait donné le médicament, il était malade. Quand il arrive en Europe, on fait des examens, il dit voilà, donnez-nous le protocole du Congo pour voir et tout. Quand il dit, c'est ce que vous preniez? Mais monsieur, un mot, voilà. Périmé, puisqu'entre-temps on a découvert que ce médicament, d'ailleurs ça ne s'est fait pas qu'ici, même en Europe, on a dit voilà, telle maladie que les hypertendus prenaient, on se rend compte que pour les cardiaques ce n'est pas bon, etc. Oui ou non? Mais vous, vous arrêtez, c'est fini? Vous avez été programmé à l'Unikin ou je ne sais pas, à l'UP, à l'UPC, je suis médecin, tout le monde danse, on vous asperge de la farine, c'est bien. Oui, mais ne jetez pas vos cours. Gardez-les, non? De temps à autre, si vous n'avez rien à faire, allez dans l'auditoire. Allez un peu vous recycler. Suivez des séminaires. Je ne sais pas si c'est le même système qu'en en Belgique. Les médecins sont tenus, sur une année, à prendre part à un nombre bien précis de séminaires. Et tout cela compte. C'est en fonction de ça qu'on renouvelle. Leur numéro inami en Belgique, ici, c'est le CNOM, je crois. Hein? Voilà. On renouvelle ça. Sinon, on dit non, messieurs, c'est fini. Vous devez encore. C'est comme ça. Ouais. Donc, pour aller plus vite, la quête de la gloire, gloriole personnelle. Vous voyez des jeunes gens qui se sont convertis après, qui pensent que les autres, là, nous autres, ici, non, on ne compte plus. Ils sont un but d'eux-mêmes. Ouais. Des pantalons jusque-là. Il vous tutoie, il vous regarde comme si... Ah, c'est que bon... Ça, c'est un problème. Nous devons respecter les gens. On vous appelle au ministère. Ne méprisez jamais les anciens qui vous ont connus. Quand vous devenez pasteur, ce n'est pas une occasion de dire... Timothée, viens ici. Non, attention, hein. Oui, parce que quelque part, on crée une sorte d'aristocratie pastorale. Ça devient comme un petit club privé. Vous habitez dans ça, pasteur? Mais un pasteur, ce n'est qu'un berger. Et quelqu'un qui garde les chèvres, quelquefois, sent l'odeur de la chèvre, non? Mais c'est aujourd'hui, on en fait tout un quelque chose de glorieux. Vous voyez? Alors, il y en a, c'est... Donc, ça, c'est déjà un symptôme. L'orgueil, l'extravagance, mes amis, dans le paraître, dans le chef de certains prophètes, de certaines prophétesses, quand vous le voyez, à l'époque, je vais rafraîchir la mémoire de certains, il y avait les mamans mosiques. Vous voyez, les plus jeunes se souviennent. C'était souvent des femmes d'affaires qui avaient beaucoup d'argent, maman musique, qui avaient ouais, les jeunes. Il faut connaître l'histoire. Vous le voyez que le mango bouche, comment? Il est encore là. Mais, ouais. Alors, c'était des femmes de prestance, d'une certaine classe. À l'époque, on avait interdit la vente de wax ici au Congo. Les jeunes peuvent se souvenir. Mais ces femmes allaient à Lomé, hein. Elle ramène. Donc c'était des femmes avec des Mercedes et tout ça. Alors il y en a qui pensent que quand on a été maman musique, on était respecté et tout ça. Quand on s'est converti, on doit rester maman musique spirituelle. C'est-à-dire, on doit garder toujours le même. Attention, j'étais ministre. Mais oui, mais vous avez été ministre dans le monde. À l'église, vous êtes un membre comme tout autre membre. Si nous organisons le baptême, nous vous baptisons ici. Il n'est pas question de nous faire venir chez vous là, quelque part à Jolimont, comment? Oh pasteur, moi je ne veux pas, mais venez dans ma piscine. Non, il faut que tout le monde sache que vous êtes converti. Voyez. Ou alors vous êtes Nicodème. Nous devons d'abord vous aider. Voyez. Mais non, ça peut-être des cas de force majeure. On appartient à une religion obscurantiste, fanatique, intégriste, où dès qu'on entend que vous vous convertissez en Jésus, on vous lance un fatwa. Vous connaissez les fatwas? Les décrets là des religieux dans l'islam. Donc ils vous lancent des fatwas. Alors, si on doit vous baptiser au risque qu'on assiste à... Eh bien, on peut dire, bon, voilà. Mais on prend quand même des gens. Vous voyez, puisqu'on a vu des gens qui se sont baptisés en Union soviétique à l'époque, puisque les chrétiens passés étaient persécutés. Donc là, ça se compte. Mais ici, pourquoi vous devez devenir Nicodème? La nuit, vous débarquez. Non, nous devons vous battre. Tout le monde doit savoir que vous êtes converti. Et si vous avez à dire, vous le dites. Comment vous aviez volé? Mais vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous ne seriez pas le premier à avoir mis la main dans la caisse de l'État. Donc, il y a un autre problème, l'embrigadement mental et financier. Les pasteurs qui manipulent les gens, ça c'est Jézabel pure, en chair et en os. On manipule les gens avec des fausses prophéties. Dieu m'a dit que tu dois me donner $800. Ben, vous avez déjà entendu ça, non? C'est peut-être votre cas aujourd'hui, nous allons prier pour vous. Dieu m'a dit ceci, on embrigade les gens mentalement, voyez-vous, et puis on les embrigade financièrement parlant. On crée un climat de peur. Il y a des gens qui n'osent même pas parler à leur pasteur, ils tremblent. Ils n'osent pas lever la main, et plutôt les yeux pour regarder la prophétesse. C'est comme ça, maman beauté. Là, il y a un problème. Si tu peux regarder Jésus en face, et que tu ne peux pas regarder celle-là en face, c'est que c'est plus qu'une femme. Il y a quelque chose derrière elle qui fait que cette femme devienne un problème. Voyez? Et ça, c'est Jézabel. Voyez? Il y en a qui sévissent dans la ville. Un but d'eux-mêmes, ou un but d'elles-mêmes. Ouais. Quand elles marchent, il faut que tout le monde le sache. Les gens leur font des courbettes. On se prosterne. On leur donne l'argent et tout ça. On va baiser leur mou. Là, il y a un problème. Mes amis, tout ça, le culte de la personne du pasteur. Oui ou non? Le culte de la personnalité. Voilà. Les gens sont plus attachés à l'homme plutôt qu'à Dieu. Ils sont prêts à rejeter la parole de Dieu parce que ça vient de son pasteur ou de son prophète. Eh bien là, il y a un problème. De grâce. Ne prenez pas de choses qui viendraient de moi au détriment de la parole de Dieu. Rejetez tout ce qui sortirait de ma bouche et qui ne serait pas conforme à la parole de Dieu. Mais gardez ce qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Donc, le culte de la personne du pasteur ou du prophète, ça c'est plein. C'est plein. Voyez-vous? Il y en a qui ne jurent que par leur prophète. Il y en a qui sont prêts à se battre pour défendre leur prophète. Alors là, il y a un problème. Cet attachement affectif, irresponsable, irrationnel, à quelqu'un, ne peut pas venir de Dieu. car Dieu voudrait qu'en tout et pour tout, nous soyons attachés à lui. Car un homme, quel qu'il soit, passera, mes amis, mais Dieu demeure éternellement. Alors lorsqu'un pasteur, lorsqu'un prophète attire les gens à lui et les amène à rester attachés à lui, lorsqu'un pasteur se met sur un piédestal sous l'influence des Gabatas, vous vous rappelez, Jézabel aussi est là. C'est pourquoi j'ai parlé de ces trois esprits comme faisant partie de cette constellation démoniaque. Voyez-vous? Ces gens infantilisent les autres. Vous devez refuser. Ils vous considèrent, ils considèrent les gens comme étant des enfants. Et, maman, yakanana. Les gens n'ont même plus de volonté. Les gens commencent à trembler, à craindre, parce qu'ils créent délibérément un climat de peur, un climat d'intimidation. Si vous ne donnez pas, vous allez voir. Si vous ne donnez pas, vous allez voir. J'ai pris, le démon vous attend. Donnez. Alors les gens tremblent. Et comme les gens sont superstitieux ici, et c'est justement le problème là, on mélange et Dieu, et la tradition, et Dieu, et la religion, eh bien, quand on entend ces gens s'exprimer de cette manière, les gens commencent à trembler. Ah, il a dit que si je prends la voiture, et comme je n'ai pas donné ma dîme, quelque chose peut m'arriver. Vous pensez que Dieu a vraiment besoin de vous tuer comme ça? Parce que vous n'avez pas donné la dîme? Alors on manipule les gens, on le menace, voyez-vous, et on crée un climat d'intimidation, d'infantilisation des gens, on les avilit. Les gens deviennent comme des objets qui sont à leur service, voyez, et au service du couple prophète, voyez, du couple pastoral ou du couple apostolique. Voyez, là, il y a un problème. Là, c'est Jézabel. Paul s'est présenté comme étant serviteur des églises, comme étant serviteur de la parole, et non pas comme étant le maître de la parole. Il tient les gens dans la confusion, dans le but de les manipuler comme il faut. Parce que les gens ne savent plus quoi faire. Mon frère et ma sœur, vous avez été rachetés à un grand prix. C'est pour la liberté que Jésus est mort. Ne laissez pas un homme ou une femme vous asservir, vous rendre esclave, vous manipuler par de, comment on dit, par des fausses prophéties, par des fausses visions, car ils utilisent cela, la prophétie, la fausse, la vision. C'est comme ce témoignage pour vous montrer comment la fausse prophétie peut détruire toute une vie. C'est un couple qui était très engagé dans une église. C'est un couple qui aspirait à servir le Seigneur, qui désirait. Et il y avait dans leur région un évangéliste qui passait souvent, que Dieu utilisait puissamment. Et à chaque fois, ils allaient suivre cet évangéliste, mais tout en restant actifs dans leurs églises. Voyez-vous? Mais tout le monde était au courant que c'était un couple qui cherchait à servir Dieu. C'est là que je voudrais mettre en garde certaines personnes. Il ne faut pas confondre l'appel avec un excès de zèle. Il ne faut pas confondre l'appel avec ce désir de vouloir servir Dieu. Ce désir est normal, mais ce n'est pas encore l'appel. Voyez? Car le diable est capable, à partir de ce désir, il le détecte et il t'envoie une fausse prophétie pour t'égarer. Alors, une fois le pasteur de l'église que fréquentait ce couple-là, invita un prophète à exercer son ministère prophétique à l'église. Cet homme est venu, apparemment il jouissait d'une certaine notoriété dans partout où il passait. Il a commencé à parler, à un moment, il était debout, il se tourne vers ce couple. C'était la toute première fois que ce prophète passait par cette église-là. Il regarde le couple, il demande à l'homme et à la femme de se mettre debout. Et ensuite, il se met à prophétiser. Et il commence son message en leur disant ceci: ainsi parle le Seigneur. Je vous ai appelé à exercer un grand ministère de guérison. Je vous demande de vous lever et d'aller rejoindre cet évangéliste-là. Écoutez bien. Vous allez partir là-bas travailler avec lui, ainsi parle le Seigneur. Lui va vous former. Lui va donc vous préparer un cadre où vous allez être instruit. Ensuite, de là, je vous enverrai, toujours le Seigneur qui parle, hein, je vous enverrai dans une autre contrée où vous allez avoir un ministère puissant de guérison. Que Dieu soit béni. Alors vous pouvez vous imaginer ce couple qui avait ce désir-là. Eh bien, ils ont commencé à pleurer de joie. Pour eux, c'est Dieu qui a. Mais qui d'autre? Cet homme vient pour la toute première fois, il ne savait pas ce qu'il y avait en nous. Et ceux de l'église qui étaient au courant de leur désir, louèrent le Seigneur en disant, oh là là, le Seigneur a parlé, alléluia, le Seigneur a parlé, le Seigneur les a appelés. Et beaucoup de gens à l'église ont dit, formidable, cet homme est un prophète. Tout le monde était enthousiaste, sauf le pasteur et son épouse, qui connaissaient bien le couple. Et surtout la femme qui voulait absolument par tous les moyens servir Dieu. Voyez ça. On cherche toujours, comme on dit, l'occasion fait le larron. Par tous les moyens. Et le pasteur et sa femme n'étaient pas très très chauds. Finalement, cet homme-là, avec sa femme, ont quitté leur ville. Il a laissé tomber son travail. Il a pris sa femme. Ils sont allés rejoindre le pasteur, c'est aux États-Unis, hein, sur la côte est. Donc, voyez, c'est vraiment de l'autre côté. Et quand ils sont arrivés là-bas, bon, comme ils ne pouvaient pas voir le pasteur, enfin, l'évangéliste, il avait des collaborateurs, ses assistants, ils ont vu un de ses assistants. Ils lui ont partagé leur vision. Il dit, voilà, le Seigneur nous envoie pour travailler. Et l'assistant prend la parole, leur dit, mais je suis désolé, il n'y a pas de place. On ne voit pas comment on va vous utiliser ici. Bon, ils ont peut-être cru qu'ils étaient jaloux, hein, c'est toujours comme ça. Alors ils sont restés, en fréquentant simplement les réunions de l'évangéliste. Ouais. Le temps passe, les mois passent, rien. À un moment, ils se sont découragés. Ils sont revenus, mais ils avaient perdu le travail. Hein, pour obéir à la prophétie. Hein. Quand ils reviennent, la vie devient très dure, sans travail. Heureusement qu'ils avaient encore la maison, et ils avaient reçu un peu d'argent, d'un héritage, etc. Mais, sans travail, sans rien, tout cet argent de l'héritage est parti. Finalement, ils ont dû revendre leur maison, voyez, et par après, vous savez ce qui leur est arrivé? Ils ont fini par divorcer. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que c'est Dieu qui avait parlé? Voyez, mes amis, et pourtant, ce désir-là, il y avait dans le cœur. Le diable est capable, mes amis, de nous tromper. Quand il partageait ses désirs, le diable était au courant, non? Ce n'est pas que le diable peut aller lire dans nos pensées. Mais quand tu vas dire à gauche, ah, vraiment, nous, on veut servir le Seigneur. Mais il y a toujours un agent de Jézabel, là. Elle dit, ah, ok. Ils ont tout perdu. Résultat, ils se sont séparés. Nous connaissons un couple pastoral, des grands chanteurs, vous avez certainement entendu parler, à écouter leurs chants, eh bien, qui avaient vécu une situation très difficile. Eux aussi, ils occupaient, leur église occupait un petit local, servant le Seigneur comme il faut, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, une prophétie est sortie. Cette prophétie leur demandait de partir et d'aller acheter un grand local. Formidable, oui ou non? Multipliez-vous, dit la parole de Dieu. Ils ont obéi. Prophétie. Ils sont partis. Mais en Europe, on ne ramasse pas l'argent n'importe où. Donc, il fallait faire un investissement, même ici. Hein. Donc, il fallait prendre un crédit. Ils sont allés à la banque, ils ont pris un crédit. Ils ont acheté un grand local. Voyez? Et puis, ils ont commencé à prier. Le temps passe. L'œuvre n'avance pas. Donc, peu de rentrées. Pas moyen de rembourser le crédit. À un certain moment, ils n'en pouvaient plus. Eh bien, ils ont dû revendre ou permettre à la banque de récupérer son argent. Et ils sont retournés dans leur petit local pour servir le Seigneur. C'est eux qui parlent. Mais à la base, il y avait quoi? Une prophétie. Mes amis, faites très attention. Surtout les jeunes gens, oh, J'ai entendu une voix qui m'a dit, tu vas me servir, tu vas me servir. Vous savez, le problème avec les jeunes croyants, les jeunes, même avec nous là, c'est de croire à un certain moment qu'on est spécial. Vous savez ça? Tout d'un coup, et ça c'est l'ennemi qui arrive à nous distraire. Il te fait croire que non, toi tu es spécial, que même le jour de ton baptême, peut-être que le ciel va s'ouvrir comme avec le Seigneur. Voilà, il y a quelqu'un qui se reconnaît là-dedans. Alors vous pensez que vous aussi, oui, Dieu peut confirmer. Mais vous ne pouvez pas fonder votre appel uniquement parce que un prophète est passé par là et t'a dit, ma sœur, lève-toi. Dieu va t'utiliser puissamment. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est toujours, Dieu te donne, te dessine un grand ministère, oui ou non? Comme s'il y a des petits ministères. Dites-moi, il y a des petits ministères. Alors, pourquoi dire un grand? Il n'y a personne qui a commencé une église comme ça avec beaucoup de gens. Hein? Ou alors, ce sont des gens qui sont allés pêcher dans les aquariums des voisins. Ça, c'est facile. Hein? Vous passez chez les voisins, même avec la main, oh, aujourd'hui, tu mets dans ta maison. Aujourd'hui. Mais allez au fleuve et vous allez voir combien c'est pénible. Quelquefois, vous arrivez, vous jetez le filet, il y a. Donc, comment dire il y a un grand ministère? Et qu'est-ce qu'on entend par grand ministère? Oui. Alors, jeunes gens, faites attention. Voyez, très rapidement, j'ai beaucoup de témoignages. C'est comme ces jeunes serviteurs, avec sa femme, ils étaient très engagés dans la musique, comme nos amis qui sont là-bas. Chanter pour le Seigneur, on va terminer, etc. Et puis un prophète est passé par là. Non, ils sont allés dans une réunion. Et dans cette réunion, une prophétie est sortie. Et que disait la prophétie? La prophétie a dit ceci, s'adressant à l'homme, que Dieu le destinait à être un grand homme, à construire des ponts et tout ça, donc à devenir ingénieur, pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu d'une certaine manière. Mais lui, il était musicien à l'église. Hein? Lui faisait un boulot. Elle aussi. Quand ils sont revenus, tout enthousiastes, oh Dieu nous a parlé. Il regarde la femme et dit, oui, mais le Seigneur nous a parlé. Il faut devenir ingénieur. Hein? Ah, mais on ne devient pas ingénieur comme ça en une semaine. Et dans sa ville, il n'y avait pas d'école d'ingénieur. Donc il a fallu quitter la ville. Oui ou non? Donc il a fallu quitter le travail. Écoutez bien. Pour aller s'inscrire dans une faculté ou dans une école d'ingénieur. Mais arrivé là-bas, il est marié. Donc il faut un appartement, un loyer. Dans un premier temps, il loue. Avec le peu d'argent qu'ils avaient. Au bout d'un certain temps, c'était devenu difficile. Le premier bailleur, il dit, non, vous êtes des aventuriers. Il les a mis à la porte. Ah oui, les études d'ingénieur, enfin, du moins de l'autre côté, ça coûte cher. Il faut être fort en mathématiques, être fort en sciences. Hein? Ah oui. On ne devient pas ingénieur parce qu'on le veut ou parce qu'on a rêvé. Ou parce qu'il y a une prophétie, vous voyez. Donc bref, ils trouvent une maison. La situation se dégrade. Ils appellent leur pasteur en disant, voilà, ici ça ne va pas. Et le pasteur a eu le courage de le confronter face à la prophétie. Il leur a dit, est-ce que vous êtes sûr que c'est le Seigneur qui vous avait parlé? Si Dieu vous avait parlé, il vous aurait précédé là-bas, oui ou non? Il aurait pourvu à vos besoins. Comment expliquer que Dieu ne fait rien? Vous devriez réfléchir à votre prophétie. Bon, c'était pas facile. Vous savez, les gens, quand ils croient, ils restent attachés à la prophétie. C'est là que je vous ai dit, ne cherchez pas ou ne courez pas après l'accomplissement de la prophétie. Ni de la vision. Courez après Dieu. Si cette prophétie vient de Dieu, en étant avec Dieu, elle finira par... C'est tout. C'est tout. Ne courez pas... Une vision, quoi? On m'a vu où? À Kananga. Gouverneur. Hé hey. On travaillait à la semaine. Directeur, il dit non, non. Chérie, on déménage. Dieu m'a dit, nous allons à Kananga. Je vais devenir gouverneur. Ça ne marche pas comme ça. Alors, ça a commencé des problèmes, et puis résultat, finalement, le pasteur les a convaincus, dit non. vous devez vous remettre en question. Ils sont arrivés à la conclusion que c'était une fausse prophétie, ce n'est jamais venu de Dieu. Il a prié avec eux. Le pasteur a brisé l'esprit des divinations qui était derrière la prophétie. Une semaine après, la femme a trouvé du travail. Voyez la fausse prophétie? Ça vous maintient loin de Dieu. Quelques temps après, l'homme dit non, ces études d'ingénieur, non. Ça, c'est la fausse prophétie. Le diable a voulu les distraire. D'abord, commencer les études d'ingénieur à un certain âge, mon ami, ça demande beaucoup de courage. Donc le diable sait. Il sait que la première année, tu chutes. La deuxième, tu culbutes. La troisième, là, la femme dit non, mon mari ici, c'est un ignare. Le diable, il prépare ça. Il ne faut pas croire que le diable, c'est comme une poule là, sans intelligence, avec sa petite tête qui caquette. Non. Le diable réfléchit. Il a aussi des programmes, des projets à long terme pour détruire nos vies. Le pasteur a prié pour lui. Il a laissé ses études d'ingénieur. Quelques temps plus tard, vous savez ce qui est arrivé? Une église l'a pris comme pasteur assistant. Alléluia. En le payant, il a commencé à servir le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Ça vaut la peine d'acclamer. Vous voyez comment ils avaient été distraits. Mes amis, je vais terminer par là et nous allons prier. Mes amis, Jézabel se manifeste par la manipulation. Et cette manipulation passe par des fausses prophéties, des fausses visions. Il peut détruire une vie. J'en ai connu. J'ai connu un frère qui est venu confesser chez moi, en Europe. Il m'a dit, pasteur, je viens vous confesser. Toutes les prophéties que je faisais, je me rends compte que c'était des fausses prophéties. Mais à un moment, il avait commencé à délirer. Hein? Ah oui. Vous savez, quand vous vous dites, ah, Dieu m'a parlé. Je vais commencer l'entreprise. Ah, gloire à Dieu. Ah, Dieu m'a parlé, tout ça. Et puis après, les choses ne se passent pas comme tu le veux. Les gens commencent à vous regarder. Vous commencez à fuir les gens. Oui, mais comme vous ne pouvez pas fuir tout le monde, étant donné que vous avez été chez tout le monde, vous commencez à vous replier sur vous-même. C'est là que la dépression commence. Il a commencé à délirer. Hein? Il est venu un homme brisé. Lui, à un moment, il était imbu de lui-même, arrogant. Il est venu comme un chat mouillé. Il entre dans mon bureau, pasteur, j'ai quelque chose à vous confesser. Moi, je le voyais. Hein? Dieu a dit tout ça. Il dit, pasteur, je me rends compte que... Parce que j'avais prêché là-dessus, j'avais dénoncé. Il dit, tout ce que j'avais dit, c'était la fausse prophétie. Ça m'a fermé toutes les portes. Mes amis, ne jouez pas avec ça. Voyez. L'impact de la fausse prophétie peut s'avérer destructrice. J'ai connu un homme qui est venu, qui est arrivé de son Kiev natal. Un jeune homme beau, qui avait rencontré le Seigneur, fait une expérience extraordinaire. Il a atterri dans un groupe de prières. Et là, Jézabel n'était pas loin. Une prophétie est sortie que la femme de sa vie se trouvait dans cette église-là. Eh oui. Et comme lui venait d'arriver ici et tout ça, j'ai eu à le rencontrer. Mais la femme travaillait dans une grande entreprise, donc elle avait une bonne position. Un mouta. Enfin, prenez-le dans le bon sens du terme. Une sœur, une prophétie sort que c'est elle au nom de Jésus. Mais la sœur avait déjà coiffé la Sainte Catherine, comme on dit. Vous connaissez l'expression? Oui. Donc, elle cherchait le mari par tous les moyens. Elle n'en trouvait pas. Vous savez, quelquefois, le mauvais caractère, les histoires comme ça, tout ça. Mais non, elle s'est transformée en une sorte d'ogre. Prête à bondir. Quitte à utiliser la prophétie. Et le jeune homme naïf est tombé dans le filet. Ils sont allés s'installer. Très bien, c'était la maison de la femme. Lui, il est arrivé comme dans une chambre d'hôtel. Avec ce gars. Peut-être qu'il a même rendu grâce à Dieu, Seigneur, merci. Il regarde la télé et dit, ah, gloire à Dieu. Un beau lit et tout ça.
Mais un jour, ça va tourner aux salades,
au vinaigre, au loutouk.
Quelques années plus tard, fini, ils se sont séparés. La femme d'un côté, l'homme de l'autre côté. Est-ce que Dieu avait parlé? Mes frères, soyez vigilants. Ne vous laissez pas distraire. Ne dites pas oui, mais c'est rien. Non. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact de ces fausses prophéties venant de la part de Jézabel sur la vie des gens. Voyez? Ça détruit la vie. Il y a des couples qui ont fini par divorcer à cause de ça. Voyez? Il y a des couples, mes amis, qui se sont retrouvés dans des situations très difficiles parce qu'il y a eu une prophétie. Ne marchez pas selon la prophétie de grâce. Que la prophétie soit là pour confirmer la parole de Dieu. Alléluia. Ne courez pas après la prophétie. Le diable va vous en donner. C'est ce que les gens oublient. Voyez? Vous cherchez, mais est-ce que vous n'avez pas une parole? Il y en a même qui demandent. Maman, bonjour maman. Elle, on s'incline, mais la maman là, est en mission apostolique à Lubumbashi. Bonjour maman. C'est quoi maman? Donc, l'ilobezate. Mais parce que vous sollicitez, Jézabel n'attend que ça. Jézabel attend que ça. Koutou Nazaki la jeune. Et le Seigneur m'a dit, ça l'attention. Est-ce que comment quoi y a quitté Nandako? Maman. Mais que. Ah voilà. Le Seigneur m'a montré comme un corbeau qui est entré là-bas. Mais quand quelqu'un te dit ça, ne te croyez qu'il m'a dit. J'ai vu. Le Seigneur m'a montré. Dans un costume, la semaine dernière, à 3h du matin. On précise même les heures. Hein? Donc il faut que vous le sachiez. Mais dans quel but? 3h du matin. Et puis le corbeau, la Monica Corbeau. À côté. À quel embêto? Est-ce qu'à côté de la chambre? Ah, mais maman n'a évité. Maintenant, vous commencez à soupçonner que quelqu'un passe chez vous. C'est normal, non? Chez nous, en Afrique, les cousins passent, et tout ça. Et c'est un problème, plutôt. C'est vraiment une prophétie. Quelqu'un vous dise que quelqu'un passait chez vous. D'abord, il ne vous dit pas quand. Donc, ça pose un. C'est des fins psychologues, hein. Je vous dis, c'est des femmes psychologues. Et puis, il dit, là, le corbeau est allé sur le lit, mais tala bien ce qu'a kota ginandako. Tala bien, ça veut dire quoi? On te pousse maintenant à commencer à suspecter. Et si ça tombe, c'est ta belle-sœur, c'est la petite sœur du mari. Ngaloula ne m'a jamais aimé. Et après, on te donne une recette. Chassez mon limon galoula. Ça c'est fait. Galoula, kende na kombonaïs. Et quelquefois, quand le Seigneur nous regarde, nous nous comportons comme des gamins. Au nom de Dieu. Ok, bon, il faut en assembler la pône à yo. Ouzawap. Maman n'a pas un bureau, c'est là, mouké. On se sent. Marguerite, attends un peu. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Ben, gloire au Seigneur. Voyez-vous, mes amis, ces choses arrivent, oui ou non? Alors, soyons vigilants. Votre vie est précieuse aux yeux de Dieu. Ne l'abandonnez pas entre les mains des prophètes. Même un vrai prophète, il n'a aucun droit d'avoir votre vie dans sa main. Votre vie doit rester entre les mains du Seigneur. Alléluia. Que le prophète vienne, car il y a des vrais prophètes. Mais que ça soit pour vous aider à mieux connaître qui? Jésus.
Qu'il y ait des visionnaires, il y a eu des visionnaires, j'en ai déjà reçu des visions, etc. Mais que ces visions vous fassent tourner vers qui? Voilà. Mais que ça ne puisse pas susciter en vous de la crainte. Pas ce frère-là. Comment se fait-il à Katimandé? Est-ce que c'est un problème qui se rase? Oui, c'est ça. Et où vous devenez méfiant? Ah, au nom de Jésus. Mais que Dieu nous garde. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Alléluia. Le Seigneur est bon. Nous allons continuer demain. Vous voyez qu'il y a tant à dire. Il faudra peut-être écrire des livres. Nous allons prier, s'il vous plaît. Alors, tous ensemble, élevons nos voix et commençons à louer le Seigneur. Commençons à proclamer la victoire de Jésus sur nos vies. Et si vous avez été manipulé par une fausse prophétie, demandez pardon au Seigneur et brisez l'impact de cette prophétie dans votre vie. C'est vrai que nous prierons pour tout cela le vendredi en 8, mais aujourd'hui déjà, vous pouvez prier pour ça. Prions tous ensemble, alléluia. Oh, alléluia, gloire à toi Seigneur. Oh, nous bénissons ton nom. Merveilleux Sauveur, avec toi la vérité finit toujours par triompher, Seigneur. Car la vérité, c'est toi et toi seul. Merci pour ta parole. Merci, ô Dieu, de nous aider à demeurer attachés à toi, à avancer avec toi, à prêcher, à proclamer, à enseigner à partir des saintes écritures. Aide-nous, ô Dieu, à nous débarrasser des fausses prophéties. Dans le nom de Jésus, ô merci pour le sang de la croix. Le sang de la victoire. Le sang de la croix. Alléluia. Oh, merci, Maître. Merci, Jésus. Gloire à toi, Maître. Merci, Seigneur. Aide-nous à demeurer fermes, à aller de l'avant avec toi. Nous marchons sur toutes les œuvres de Jézabel dans nos vies au nom de Jésus. Dans nos vies au nom de Jésus. Nous brisons l'impact des fausses prophéties au nom de Jésus. Oh, alléluia. Libère nos vies. Gloire au Seigneur. Oh, gloire. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous rasseoir. Nous allons terminer.